RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Professeur Magnard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu dans nos studios pour une nouvelle émission. Votre élève, votre cher élève, Robert Villaine, est toujours parmi nous. Je voulais vous poser une question parce que je suis allé à Annonay chez vous il y a peu de temps. Je pensais qu'on allait préparer votre prochaine conférence. Et vous m'avez amené dans un tout petit village, on a déjeuné ensemble. Et vous m'avez raconté l'histoire de la pomme de terre, que vous appelez la truffole. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Une histoire toute neuve pour moi. Parce que j'avais une autre idée de, avec Parmentier, avec une histoire un peu officielle. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je voudrais d'abord, en liaison avec ce que je disais dans la précédente émission, j'ai toujours voulu célébrer le génie d'un terroir. Nous parlions dans notre précédente émission du génie des climats bourguignons. Il faudrait parler aussi du génie des terres pauvres, du génie des terres arides, du génie des terres ingrates. Car pour l'Ardéchois du Nord que je suis, au fond, la terre la plus ingrate est encore gratifiante et l'on ne doit cesser de lui rendre grâce, car dans son aridité, elle produit ses fruits. C'est cette terre que je présentais à Éric Rouillet lors de cette escapade à Saint-Alban-d'Ay. Pourquoi Saint-Alban-d'Ay? Parce que c'est là que le hasard des choses, des héritages, de la vie familiale, m'a fait sylviculteur, propriétaire de forêts, de châtaigniers, auxquels je tiens immensément, comme si cet arbre avait sa noblesse, et conférait à celui qui savait l'aimer et l'entretenir une noblesse authentique. Je suis éleveur de châtaigniers, et non pas d'un grand cru bourguignon. Mais qu'est-ce qui se développe le long des bois de châtaigniers, des plantations plus modestes de truffoles? Cette truffole auquel nous tenons tant en Ardèche, puisque le fond de l'alimentation au Moyen-Âge était constitué de l'arbre à pain, c'est-à-dire le châtaignier, et de la truffole, que l'on appelle communément pomme de terre. Et c'est cette pomme de terre dont je voudrais dire la magie aux yeux des Saint-Alban-d'Ay, puisque tel est le nom de la commune en question, la magie de la truffole. Tout simplement parce que nous, Ardéchois du Nord, nous n'avons pas eu besoin de M. Parmentier et de ses découvertes à l'époque de l'Empire. Pourquoi? Parce que en 1495, un moine de chez nous, qui avait fini par entrer en religion dans une abbaye bénédictine d'Andalousie, devait obtenir de son supérieur qu'il prenne sa retraite dans son pays. Et c'est ainsi qu'en 1495, ils sont revint d'Andalousie en Ardèche avec un sac de ce tubercule qui arrivait juste d'Amérique avec les caravelles de Christophe Colomb et que l'on appelait la truffole, cette pomme de terre qui nous venait des pays amérindiens. Pourquoi cette magie de la truffole? Vous me direz que je suis bien chauvin pour célébrer ce modeste tubercule. Mais je ne suis pas le seul, et je me trouve un condisciple, si je puis dire, ou un petit compagnon de jeu imaginaire à Saint-Alban-d'Ay. Ce compagnon de jeu m'apprendra à respecter les renards et à converser avec eux. Il m'apprendra toute une mythologie de la campagne. Pourquoi? Parce que il est fasciné par elle, en même temps qu'il ne cesse de regarder le ciel et de chercher au ciel l'étoile qui pourra le guider. Il s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, dont la maman était née à Saint-Alban-d'Ay et qui devait passer toute son enfance et sa jeunesse à Saint-Alban-d'Ay. Antoine de Saint-Exupéry, qui, avant moi, a cédé au charme de ce terroir pauvre, a cédé au charme de cette terre ingrate qu'il a su relier au ciel par ce magnifique conte qu'est Le Petit Prince. Le Petit Prince, il est né de l'imaginaire des enfants de cette terre ingrate.
Mais Aubert de Villaine, vous le vigneron, c'est passionnant cette histoire de la pomme de terre.
Oui, c'est passionnant et ça me fait revenir un peu à ce dont on parlait dans la première émission, c'est-à-dire combien on ne peut pas faire de grandes choses si on n'y met pas l'esprit. Et en fait, c'est là où l'homme peut se dépasser, c'est que il peut apporter dans ce qu'il fait l'esprit. Bon, je me suis tout de suite dit, après avoir vu ce titre et lu le livre de Pierre Magnard, « Penser et rendre grâce », je me suis tout de suite dit, mais notre métier n'a d'autre valeur que si faire du vin, c'est rendre grâce. Et c'est ce que nous nous appliquons à faire, en fait, qu'on en soit conscient ou non, c'est ce que font les vignerons. C'est ce que font les vignerons, c'est ce qu'ils ont toujours fait au cours des siècles. Et c'est ça la grande force de la Bourgogne, c'est que cette spiritualité-là, elle l'a créée et conservée au cours des siècles, malgré tout ce qui a pu se passer de difficultés, de contrariétés, etc. Elle a toujours conservé ce génie-là, qui est cette spiritualité. Pierre, pas facile à dire tout ça.
Mais, oui, mais c'est... On va retourner à Annonay, parce que quand je suis allé vous rendre visite, j'ai aperçu un petit piano, un vieux Pleyel, à harpe de bois. Je crois qu'il a une histoire.
Il a une histoire. Le génie des terres pauvres fabrique souvent des artistes, car au fond, lorsque la terre est trop rude et le travail trop difficile, il y a la part du rêve. Et c'est pourquoi on a toujours pratiqué dans ce pays la musique et la grande musique. En effet, je me souviens de ce que me racontaient mes grands-parents, de ces visites de la Basse-Ardèche. Nous faisait un ami de la famille qui s'appelait Vincent d'Indy. La Basse-Ardèche, c'était un petit peu le pays de Cocagne pour la Haute-Ardèche. La Basse-Ardèche, c'était celle des oliviers, c'était celle des vignes, c'était celle d'un savoir-faire et d'une culture plus développée que ceux de la Haute-Ardèche. Mais nous avions en commun précisément la musique. Et c'est ainsi que Vincent d'Indy, qui devait être le formateur de mon oncle Albéric Magnard, puisqu'il devait le prendre comme élève privilégié, comme seul élève particulier, pour le conduire au sommet où il est parvenu, Vincent d'Indy, donc, fréquentait la famille et nous honorait tous les ans d'une visite à Annonay. Il n'y avait pas de salle d'audition à Annonay à l'époque, il n'y avait même pas encore de théâtre. Et comment pouvait-il se produire? Il lui arrivait de se produire dans une église, mais il donnait ce qu'on appelait un récital dans le salon de mon arrière-grand-mère. Or, mon arrière-grand-mère disposait d'un vieux piano qui ne satisfaisait pas le musicien et qui lui disait « Écoutez, cher ami, je vous en prie, procurez-vous un piano digne d'une véritable audition. » Et très vexé, mon arrière-grand-mère se retranchait sur sa dignité en disant « Mais enfin, il médite mon piano. » De telle sorte qu'elle n'en changea point. Aussi, un jour, Vincent d'Indy fit précéder sa visite d'un envoi de la maison Pleyel, qui était un piano que j'ai gardé avec dévotion, que je conserve toujours, que je fais réaccorder tous les ans, car l'arbre de bois ne tient pas l'accord. Mais enfin, il est toujours là. Don de la maison Pleyel, c'est-à-dire qu'il n'est pas immatriculé comme le sont les autres pianos Pleyel qui ont été commercialisés, puisqu'il était destiné à mon arrière-grand-mère. Alors, ce piano va marquer un peu les relations avec Vincent d'Indy, qui conservera de ce fait une sorte de prédilection, de lien de prédilection avec son élève Albéric, puisqu'il le soutiendra dans toutes les tribulations d'une carrière difficile qui devait conduire Albéric à prendre des positions extrêmes, révoltées parfois, puisqu'il signera l'appel en faveur de Dreyfus, au grand scandale de Vincent d'Indy, qui présidait la Ligue de la Patrie française. Mais enfin, Vincent viendra un jour dire à Annonay, il était si bon, ce petit Albéric, qu'il faut tout lui pardonner.
Pierre, nous allons écouter l'un de vos grands admirateurs, Robert Lévine, qui a enregistré les partitas à la Guayotte, et nous retournerons ensuite vers Aubert de Vilaine. Thank you. voilà, donc Robert Levine, les partitans enregistrés à la Goyotte. Robert Levine, un personnage singulier, particulier, Robert Vilaine.
Robert Levine, oui, un personnage, un écorché vif. Je me souviens de l'avoir vu enregistré, le souci de la perfection, c'est incroyable. Et un homme qui connaît tout sur la musique du 19e et du 20e, il connaît tout, et qui la joue. Notamment, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est ce qu'il a fait avec Mozart. Il a complété
les fragments des sonates et des trios.
Les fragments et la messe.
Une messe, le Requiem.
La messe de Requiem de Mozart. Et ça, c'est incroyable, parce que quand on écoute la version sans les compliments et la version avec les compliments, il a vraiment compris Mozart, et qu'on puisse être capable de faire des choses comme ça, c'est fabuleux.
Et Pierre, je vous entendais sur France Culture il y a peu de temps. Vous parliez de Robert Levine et vous disiez c'est le plus grand de tous.
Eh bien, ce qui me frappe chez Robert, c'est la façon unique qu'il a de toucher le piano. Je suis très sensible à cela. J'avais une épouse adorable qui était Grand Prix de conservatoire de piano et qui me gratifiait de 6 heures d'audition par jour, ce qui me portait à un certain niveau de bonheur ou de joie, sans quoi on ne peut pas écrire de la bonne philosophie. Alors, je suis très sensible au toucher du piano. Il n'y a pas deux pianistes qui touchent le piano de la même façon. Or, Robert a une façon quasi magique de toucher le piano. On dirait qu'il vient avec une grâce ou une sorte de don supérieur qui l'amène à suspendre son geste continuellement. C'est un toucher suspendu. C'est pas un toucher frappé, c'est un toucher suspendu. Il se retient de toucher le piano, il l'effleure et il en tire le maximum d'effet. C'est ça qui constitue, à mes yeux, sa plus grande originalité. Et là, je dirais, il a la main artiste. Son génie est dans ses mains. Son esprit est dans ses mains. Ce qui, pour moi, est un constat tout à fait considérable, car j'ai toujours considéré que l'homme pensait, sentait, vivait, aimait avec sa main. La main sans laquelle l'esprit n'est que peu de choses. La main et l'esprit, c'est cette conjonction sur laquelle on peut rêver quand on voit jouer Robert Levine.
On avait organisé une conférence il y a quelque temps. Vous nous parliez de vos 4 amis préférés. Gilles Deleuze, l'apôtre du rhizome, qui anéantit les racines. Michel Foucault, qui vous appelait son petit magnard, et qui ne supportait pas d'être le fils de quelqu'un, et qui vous condamnait d'honorer votre père et d'en ajouter un autre dans le ciel. Pierre Bourdieu, dont vous disiez qu'il avait été pris d'une folie d'indignité envers l'héritage, qui avait d'ailleurs écrit un livre qui fit fortune, Les Héritiers, et que vous définissez comme un tissu d'ânerie. Ces 3 personnages, vous aviez certaines tendresses envers eux. Il y en avait un 4e, Jacques Derrida, que vous nommez un peu le falsificateur en chef, et que vous aimiez moins.
Absolument, absolument. Les 3 premiers, je les appellerai mes amis, mes ennemis intimes. Mes ennemis intimes, parce que je les ai toujours combattus, et ils m'ont rendu l'appareil. Seulement, en un certain sens, je les porte dans mon cœur, comme des blessures, comme des accidents de parcours, comme des malencontres, et non pas bonnes encontres, comme des malheurs, et non pas des bonheurs. Mais enfin, ça appartient à mon itinéraire. Le 4e ne mérite pas de figurer parmi les ennemis intimes, car je dirais que je ne le porte pas dans mon cœur. Je pourrais vous livrer une petite anecdote le concernant. Il était sur les mêmes bancs que moi, en Cagne à Louis-le-Grand. Il entra à l'école normale supérieure 2 ans après moi, c'est-à-dire, non pas en 50, mais en 52. Il fit une carrière, disons, éclair, portée véritablement par l'autorité académique de l'époque, c'est-à-dire par les professeurs de Sorbonne, qui lui firent un crédit immense sans qu'on sache exactement pourquoi. Alors que, avec mes amis Michel Serre et Georges Steiner, nous avions décidé de le tenir à l'écart comme étant l'homme du ressentiment. Tout ce qui l'animait, c'était le ressentiment à l'endroit d'une culture et d'une spiritualité qu'il n'avait pas pu s'approprier. Il me le disait d'ailleurs couramment, quand on n'a pas la possibilité de s'approprier des valeurs, il faut avoir le courage de les refuser catégoriquement et de les combattre. C'est vraiment ce que Nietzsche appelait le ressentiment. Cette attitude, il l'eut toujours, de sorte que à un compagnonnage difficile succéda une distance que je ne faisais rien pour diminuer. Jusqu'au jour où, voulant entrer dans l'université, ce qu'il ne parvenait pas à faire, il me téléphona. Geste de bassesse, de servilité. Pourquoi ? Parce que j'appartenais au Conseil national des universités et que j'étais du jury très étroit qui disait ce qui était digne d'entrer dans l'université et ce qui ne l'était pas. Et après avoir connu maint échec devant ce Conseil national des universités, il sollicitait mon indulgence. Or, personne n'a jamais dit, n'a jamais écrit l'attitude qu'il prit alors publiquement en me la disant, moi membre du CNU, cette attitude de refus total, puisque je lui disais, mais enfin, Jackie, cesse de faire du Derrida. Cette parodie de philosophie, cette déconstruction tout azimut, cette profanation de tout ce que nous avons de plus sacré, cette dénégation à l'endroit de toutes nos raisons d'être et de tout ce qui fait notre culture, cesse de faire du Derrida. Réponse de Derrida qui mériterait d'être imprimée aujourd'hui. Mais enfin, je vis de cela. C'est ma raison d'être. Il faut que je joue mon personnage jusqu'au bout. Il faut que je sois Derrida jusqu'à l'extrême. J'ai raccroché. J'ai raccroché devant cette déclaration pitoyable.
Oui, Aubert de Villene, vous avez suivi cette épopée de Pierre Magnard à travers ses ennemis intimes.
Mais depuis que nous sommes retrouvés,
oui.
Je l'ai suivi, mais j'ai appris quand nous sommes retrouvés seulement. Hein. Je ne connaissais pas tout ça.
C'est resté assez confidentiel.
Mais forcément, moi, je continuais mon chemin imperturbablement dans une université sinistrée où périodiquement tous les philosophes se mettaient en grève et couraient, disons, à la suite des déconstructeurs. Bon, j'étais le seul à dire non, et j'ai toujours dit non. Et c'est comme cela que j'ai été amené à poser à Derrida la condition de son entrée dans l'université. Je lui avais dit quasiment, nous voterons pour toi si tu cesses de faire du Derrida. Alors me répondre qu'il est payé pour faire du Derrida, mais par qui payé ? Par Satan lui-même.
Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il se fait par hasard que j'ai lu un livre qui vient de sortir du philosophe
Michel Onfray.
Et j'ai eu l'impression de lire sur ces questions-là un décalque de tout ce que dit Pierre Magnard depuis que nous sommes revus sur ce qu'il appelle les déconstructeurs. C'est incroyable. Michel Onfray reprend ces thèmes-là et j'ai l'impression que maintenant, ça y est, ça va être la nouvelle attitude que vous avez initiée.
Oui.
Et qui va maintenant être l'attitude générale,
oui,
en fait, vis-à-vis de...
qui est d'autant plus surprenante que Michel Onfray refuse de débattre avec Pierre, alors qu'il reprend ses idées et qu'il en fait un peu un fonds de commerce, Pierre.
Oui, mais il est de bon ton aujourd'hui de retrouver cette critique. Il était incongru de dénoncer les déconstructeurs dans les années qui suivirent 68, comme je le fis. Mais j'ai choisi d'être, disons, le maudit de la corporation, puisque tout le monde se couchait devant la barbarie nouvelle et que j'étais le seul à dénoncer cette barbarie. Mais aujourd'hui, pourquoi m'en prévaloir ? Si ça tombe dans le domaine public, tant mieux ! Et je heureux de voir que ça appartient maintenant à la vulgate de tout un chacun qui voudrait penser et écrire.
Ah, Pierre, je crois que vous avez préparé une question à votre ancien élève, pour le ramener vers son métier de vigneron.
Non, mais si ça peut... Il y a une chose que je voudrais dire que suscite ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur le rêve, à propos des terrains grattes et des...
Arides,
terres arides et du rêve des gens qui les exploitent. Et tout. Et finalement, je me dis que qu'est-ce que nous faisons d'autre, nous, que rêver, en fait, quand on fait du vin, quand du vin comme nous... essayons de le faire, Jean-Yves Bizot et moi, par exemple, et d'autres, c'est un rêve. On dit, je crois que c'est Bernanos, j'en suis pas sûr, a dit, ce qui pèse dans l'homme, ce sont ses rêves, je crois. Et finalement, c'est ça. Je pense que ce qu'on réussit, les vins que nous réussissons, ont des qualités, etc., mais pour nous, il représente vraiment ce que nous avons rêvé et que nous avons réussi ou pas réussi avec ce rêve. Et cette idée de rêve dans la production de terres, parce que bon, les terres bourguignonnes ne sont pas des terres riches, hein, ce sont des terres pauvres aussi. Cette idée de rêve est très importante.
Pierre, c'est magnifique ce que vous dites, Robert. Je pense à l'histoire du Chambertin, qui était une terre marécageuse, une terre ingrate, une terre qu'on désespérait de cultiver. Et dans le beau livre sur les climats que vous m'avez offert, on y raconte comment le propriétaire de ce monsieur Bertin, oui, voulait l'offrir aux moines en disant « Seuls les moines auront le courage de cultiver une terre aussi ingrate. » Or, c'est bien le rêve d'un moine à l'époque qui se réalise aujourd'hui. Exactement. Au fond, un grand cru, c'est un rêve réalisé.
Réalisé, on espère.
Ben, nous arrivons, Robert Gilaine et Pierre Magnard, au terme de notre deuxième émission. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Et nous allons nous quitter donc avec les partitas Robert Levin et cet enregistrement à la Guayotte. Merci à vous.